mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir sur les journaux. En technique avec nous, Ella Zohar. Vous êtes sur Canal Français, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que ce flash info qui dure 5 minutes n'est disponible qu'à la radio sur le 101.3 FM. Et nous vous invitons à nous retrouver à partir de 21h20 sur le 101.3 FM et sur la page de Canal Français pour votre rendez-vous Facebook Live. Aujourd'hui, 7 avril, ce dimanche sonne les 6 mois depuis le début de la guerre. Cette guerre qui a commencé ce terrible jour du 7 octobre. Alors, bilan après ces 6 mois de guerre, d'après les données de Tsahal, 12 000 terroristes ont été tués, dont 5 ayant étant de grade de général de brigade. En outre, 300 000 réservistes ont été recrutés, dont environ 17% de femmes. Depuis le début de la guerre, 604 soldats de Tsahal sont tombés au combat, dont 260 sont tombés lors de manœuvres terrestres dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré au début de la réunion du cabinet « Nous sommes déterminés à mettre fin à la guerre par une victoire complète, à rendre tous nos otages, à achever l'élimination du Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafiah, et à garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. » Netanyahou a affirmé qu'en ce jour du sixième mois de la guerre, les réalisations de celle-ci sont grandes. Selon lui, nous sommes à un pas de la victoire, mais le prix qu'on nous impose est douloureux et déchirant. Netanyahou a ajouté qu'il avait clairement fait savoir à la communauté internationale qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu sans le retour des otages et a souligné que c'était le Hamas qui a empêché la conclusion d'un accord. Les gardes frontières ont neutralisé un gros engin explosif qui se trouvait dans le véhicule du terroriste ayant perpétué l'attentat à la mitraillette de ce matin sur la route 55 en Samarie, au cours de laquelle une femme soldate de 19 ans a été grièvement blessée et un autre homme a été légèrement à modérément blessé. Selon les estimations, le terroriste prévoyait également de mener une autre attaque. Les forces de sécurité poursuivent toujours le terroriste qui a fui les lieux et ont localisé l'arme qu'il avait utilisée. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a évoqué le départ des forces de manœuvre de Khan Younis lors d'une visite au commandement sud, affirmant que cette décision avait été prise après que le Hamas a cessé de fonctionner comme organisation militaire dans la ville. Gallant a également indiqué que les forces sont parties se préparer pour la mission à Rafiah. Selon le ministre de la Défense, nous parviendrons à une situation dans laquelle le Hamas ne contrôlera plus la bande de Gaza et ne fonctionnera pas comme un cadre militaire représentant un risque pour les citoyens de l'État d'Israël. 5 roquettes ont été lancées depuis la ville de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza vers les implantations du conseil régional d'Eshkol près de la bande de Gaza, seulement quelques heures après le retrait des forces de Tsahal de la zone. Le système du dôme de fer a été activé et a intercepté 2 des roquettes. Les combattants du commando qui ont récemment opéré dans le quartier d'Al Amal à Khan Younis ont attaqué environ 100 sites dans chacun desquels une infrastructure terroriste a été trouvée. Au cours des combats, les forces ont localisé un tunnel d'environ 900 mètres de long. À l'intérieur de ce tunnel ont été trouvées des pièces d'habitation et de nombreuses armes. Après une enquête menée par l'unité Yalam, les combattants ont fait sauter le tracé du tunnel. Un terroriste a été éliminé lors de l'opération. Le chef d'état-major, le général Herzi Halevi, a fait une déclaration 6 mois après le 7 octobre, donc aujourd'hui, et a déclaré que malgré le retrait de la 98e division de Khan Younis, la guerre à Gaza continue, nous sommes loin de nous arrêter. Halevi a déclaré l'un des objectifs de la guerre, le retour des otages, est urgent et important. En outre, le chef d'état-major a envoyé un message à l'échelon politique affirmant que l'armée est suffisamment forte pour que l'État d'Israël paie le prix fort pour la libération de ses citoyens. Des milliers de personnes manifestent devant la Knesset à Jérusalem pour le retour des otages. Les manifestants scandent à la réalisation d'un accord dans l'immédiat. Au même moment, des proches des femmes enlevées se tiennent sur le podium avec des vêtements identiques à ceux qu'elles portaient lors de leur enlèvement. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à 21h20 pour la suite du journal complet sur Canal Français. Shalom de Jérusalem.
Buenas noches, soy Jessica Newa y este es el flash informativo en español de las 9 de la noche. Miles de manifestantes se reunieron cerca de la Knesset en Jerusalén para conmemorar los 6 meses desde la masacre del 7 de octubre y pedir al gobierno que garantice la liberación de los más de 100 rehenes retenidos por los grupos terroristas en la Franja de Gaza. Los manifestantes también pidieron la destitución del primer ministro Netanyahu. Miles de personas se reunieron en el kibbutz Nir Oz para enterrar a Elad Katzir, quien fue tomado como rehén durante la masacre del 7 de octubre y asesinado en cautiverio por terroristas de la Yihad Islámica Palestina. Su cuerpo fue extraído de Gaza y devuelto a Israel por las fuerzas de defensa durante el fin de semana. Su hermana, Carmit, dijo: me gustaría que el primer ministro le pidiera perdón, pero eso no va a suceder. En una publicación en Facebook que hizo, en la que anunciaba que el cuerpo de su hermano había sido recuperado, culpó al gobierno por no lograr un acuerdo de liberación de rehenes a tiempo para poder salvarlo. En una declaración pronunciada al inicio de una reunión semanal del gabinete para conmemorar los 6 meses de la guerra, el primer ministro Netanyahu prometió que Israel logrará la victoria completa sobre Hamas y llamó a la unidad entre los ciudadanos de Israel. Dijo: dejé claro a la comunidad internacional que no habrá alto al fuego sin el regreso de los rehenes. Eso simplemente no sucederá. Esta es la política del gobierno israelí y celebro el hecho de que la administración Biden haya dejado claro el otro día que esa sigue siendo también su posición. Este es el momento para la unidad, pero precisamente en este momento una minoría extrema y violenta intenta arrastrar al país a la división. No hay nada que nuestros enemigos quieran más. Que nuestros enemigos no se equivoquen. La mayoría absoluta del pueblo está unida en la necesidad de seguir luchando hasta la victoria. La mayoría del pueblo, y yo estoy entre ellos, dijo, condena cualquier manifestación de violencia entre nosotros. El jefe de Estado Mayor, teniente Herzi Halevi, dijo que a pesar de la retirada de la franja de Gaza, la guerra contra Hamas continúa y está lejos de terminar. También dijo que las fuerzas de defensa sabrán cómo volver a luchar en caso de una tregua como parte de un acuerdo de rehenes y que devolver a los rehenes es un asunto más urgente que los otros objetivos. Dijo: estamos librando esta guerra de manera diferente, es muy diferente a sus predecesoras. La guerra en Gaza continúa y estamos lejos de detenerla. Altos funcionarios de Hamas siguen escondidos. Tarde o temprano llegaremos a ellos. Estamos progresando, continuamos eliminando terroristas y comandantes y destruyendo más infraestructuras. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que las tropas israelíes fueron retiradas de la zona de Han Yunis en el sur de la franja de Gaza para prepararse para la esperada ofensiva en Rafah. Las fuerzas salieron de Gaza y se están preparando para sus futuras misiones. Vimos tales como ejemplos, como en la acción en el hospital Shifa, y esto será para su futura misión en el área de Rafah. Llegaremos a una situación en la que Hamas no controle la franja de Gaza y en la que no funcione como un marco militar que ponga peligro a Israel. 18 rabinos prominentes asociados al partido Jazz rechazaron cualquier compromiso sobre el reclutamiento de judíos jaredíes. Una carta firmada por jefes de yeshiva y rabinos influyentes formuló una posición similar a la de los líderes de la comunidad de Ashkenazí jaredí, donde múltiples líderes rechazaron cualquier forma de servicio militar obligatorio. Según afirma el documento, el compromiso conducirá a la ruina. No nos disuadiremos de ir a prisión y entregar nuestras almas con valentía para observar nuestra sagrada Torah. El documento, que se titula Instrucciones claras ante la resolución sobre el servicio militar obligatorio, afirma que la presión para aumentar la participación jaredí es parte de un plan malicioso para reunir bajo su control al público jaredí y reducir el número de quienes observan los mandamientos de la Torah. El Papa Francisco se reunirá mañana con las familias de los secuestrados en el Vaticano. Las familias se unirán al ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, en una visita a Roma y el Vaticano cuando se cumplen 6 meses del ataque del 7 de octubre. Katz también se va a reunir con el arzobispo Paul Gallagher y discutirá también la importancia de aumentar la presión sobre Hamas para que libere a los rehenes en Gaza. En un comunicado, Katz agradeció al Papa por aceptar reunirse con las familias, fortalecerlas y apoyar el regreso de los rehenes a casa. Hasta aquí la información. Soy Jessica Newa y nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en nuestro programa, como todos los días. Que tengan una noche tranquila. Shalom desde Jerusalén.
קרטולנו ואני רדיו כאן, זה גרם שם שלום ואני שכלה, מיקרופון תן מרים שקשו לרמם שדובית. אס עוד חמוץ דעות חדרה, איזה הגיע, אקסי טווי מורטור לסדרידן, רודסת כם תרמה, כדבר כסל דגור ביה. שם תוחרות עם נשמעו עם פריודיס, שיצקי, אס עוד סטטות חמתי, ישראל ישמוכה כ... Razis, uprostorit, hamasitval bašnia, gnelia, zustatim drevis carmodgena, rogor gatenda šabatidila, rogor cteboda kaosi, rogor daicko raketa bisrola, rogor podkivili, da, rachteba dres, rari dres, da rogor ikneba hvalindeli dre, čvenim omakis. Čven sam tuharot arvart, ამ წუთებში ომ დამთავრებული ომი ერი და ვერც საზოგადოებას მიუნოცავ თავიანთი ოჯახის წევრების განთავისუფლებას და ვერც მთლიანად ქვეყანას ომის დასასრულს. თუ არ ვწდები, ჩვენ ახალი უმძიმესი ომის პერიოდში გადავდივართ. და როგორც ბატონმა ჰერციალევიმ გააკეთა განცხადება გესტაპოს გენერალმა, ისმა იცის, როგორი ომი ჩერდება ირანს. ამ წუთებში ირანზეა საუბარი, თუმცა კი სულ რამდენიმე წუთში წინ ზივის ტერიტორიაზე დაგარდა რაკეტა, თუმცა საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. ასე რომ საბრძოლო განწყობილება აქვს ჩრდილოეთში. აქ ტკივილია, გაუნელებელი ტკივილი. არავის არაფერი არ არ მოურჩა, ტკივილი არ არის ის, არ არის ჩვეულებრივი გამოგონება, რომელიც იმ უმძიმეს ჭრილობას მოგიშუშებს, რომელიც შეიძლება შენამდე მოვიდეს. ას 84 დღე. 600 მეტი, 604, ანუ პროსწორედ 605 დაღუპული ჯარისკაცი და ჯარისკალი. ძნელია ამ ციფრების დასახელება. 1200, ზუსტად ეს ციფრი. ასეთი გამოცხადებული ინფორმაცია, რომ ჩვენ ამდენი ადამიანი დავკარგეთ წელს იმ ერთ დღეში. მაგრამ იყო ძალიან ბევრი ტკივილი, იყო ძალიან ბევრი გაურკვევლობა.
بسوله دو یارادوری با حالتی وزنی گردید. او رو به حالتی وزنی و به ورخان اگزروندن از روی منو تا خوزیر حالتی او وزنی هست. امروز نیم سال شد که جنگ در سرخدی اسرائیل و سیکتری از سر شد. خاطر می رسن که هفتمی اکتیابر ساتی شتونین پگویی خوی به خطر تشکیلاتی خماس по сохнони те секрет от нация зорзот одам бе Исраил дронде так мина не куним хазор сохнони Исраил ро нуут кардан дар ягрос ве хамчун бе грави гирифтан позоради мудофи маалум кард ки ки шиг зашта дар хан Юнес чор аскари худ ро хуй бехтри Исраил гум кард но онҳо имрӯз бе хабар расонда шудан و همچون رو چه گذاشته جسدی یک اسکری که در هفتم اکتبر به گراوی گرفته شد به از روی معلومات در ینوار همین سال 2024 رو موجود کردن و به زمین بخواب رساندن شیدشت کوی بخطر اسرائیل او رو یافت جسد او رو به اسرائیل او رو قبر رساندن بسیار تری اسکرها و سکتری از علاقه برو ارده شدن و ممکن که بعدی به خانه اونده آنها بعد در رسیه جنگ رو دوام میتین حالا آن نمانون کرچنده که سروزیر اسرائیل بیمید بگم و عدادات که مایان به جنگ در رسیه این جنگ رو با آخر رسندری بیسیم که از روی معلومات در رسیه بسیار تری رهبران تشکیلاتی خمس جای گیر هستن و ممکن که بگرابی گرفته شدیم که آنها می باشن 133 نفر در دستی تشکیلاتی خمس هستن و آنها گفته ممکن که در رفیق ممکن آنها جای گیر یعنی آنها رو گذروندن پریزیدنتی میسر اسیسی گفته ایستاده است که اگر قوه بختر اسرائیل به رفیق درمده این رفتار یعنی جنگ رو سر کند ممکن که این خانه در حالتی مملکت ما نارومی اردنش ممکن از هر طرف و نه فقط از طرفی رفیق. سر روزی جمعه بین پریزیدنتی شتات متحده امریکا جو بایدن و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفتگوشونها شده گذشت در باره رفتار که قوی بخته ایسر برافی قدرون داری هز ورزیم طرف همچون حالتی هفت کارکنان تشکیلاتی WCK که بسه اونو آتش کشده شد و اونو نبود کردیدن رهبری اپوزیسیا یایر لپید بس بگویی نوشتن چیم گذشته به شتاتوی متحده امریکا رفته سفر خود رو گذرون داری هز روی معلومات یه رپید با یک رهبران یک چند دولت ها بینی آنها همچون رهبران شتاتوی متحده امریکا در امریکا بخوری و میگذراند. از روی معلومات ممکن که در دو روز این نزدیک جنگ در سکتر از بس کرده می شود در وقتی که اید الفیتر شده میگذارد اسرائیل کویا داده ایستاد است که باید در اونجا جنگ شده بگذارد اما اگر به آنها معلوم کرده به اسرائیل معلوم کرده جایی بودنی به گرابی گفت شدن یا که از طرفی تشکیلات خماس آتش پرانه یا که نارومی سر شود اسرائیل جوابش رو در همون وقت میدید گفته معلوم کردید اسکرهای قوی بختر اسرائیل معلوم کردن که شبه گذشته یک تونل نوی که به اسرائیل معلوم کردید اونها نیس کرده تونستند شما نگونیم کتره مایان خدا خط پگا ساکی دوزنیم به شمایان با معلومات های پور میرسانیم شلام یو شلام
Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir sur les journaux. En technique avec nous, Elad Zohar. Vous êtes sur Cannes en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 7 avril, ce dimanche sonne les 6 mois depuis le début de la guerre. Cette guerre qui a commencé ce terrible jour du 7 octobre. Alors nos invités de ce soir seront Maître Yom Tov Kalfon qui nous fera un bilan de ces derniers mois de guerre. Nous recevrons ensuite Monsieur Stéphane Jufa, habitant de Metula au nord d'Israël, qui nous parlera de la situation au nord. Alors, bilan après ces 6 mois de guerre, d'après les données de Tsahal, 12 000 terroristes ont été tués, dont 5 ayant le grade de général de brigade. En outre, environ 300 000 réservistes ont été recrutés, dont environ 17% de femmes. Depuis le début de la guerre, 604 soldats de Tsahal sont tombés au combat, dont 260 sont tombés lors de manœuvres terrestres dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré au début de la réunion du cabinet « Nous sommes déterminés à mettre fin à la guerre par une victoire complète, à ramener tous les otages, à achever l'élimination du Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah, et à garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. » Netanyahou a affirmé qu'en ce jour de sixième mois de la guerre, les réalisations de celle-ci sont grandes. Selon lui, nous sommes à un pas de la victoire, mais le prix qu'on nous impose est douloureux et déchirant. Netanyahou a ajouté qu'il avait clairement fait savoir à la communauté internationale qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu sans le retour des otages et a souligné que c'était le Hamas qui a empêché la conclusion d'un accord. Alors, une demi-année qu'Israël est en guerre. Beaucoup d'événements se sont déroulés depuis le 7 octobre. La guerre contre le Hamas continue, une possibilité d'ouverture de front au nord contre le Hezbollah. Une partie des otages a réussi à être récupérée, mais il reste quand même 134 otages qui sont toujours détenus par le Hamas. Les habitants du sud et du nord sont toujours évacués. Un procès contre Israël pour génocide à la cour de la Haye. De nombreuses manifestations partout dans le monde, des tensions au sein du pays et en dehors. 6 mois qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté. 6 mois que l'on vit en apnée sur le qui-vive. 6 mois que les yeux du monde sont rivés sur ce si petit pays qu'est Israël. Maître Yom Tov Kalfon va nous aider à faire un bilan de ces 6 mois et on va voir pour voir où l'on en est. Alors je rappelle, Maître Yom Tov Kalfon est ancien député du parti Amina à la Knesset et il est revenu à ses activités d'avocat. Maître Yom Tov Kalfon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, depuis le 7 octobre, Israël avait 2 objectifs de guerre, éradiquer le Hamas et récupérer les otages. Pensez-vous qu'Israël se rapproche de ses buts ou que l'on est encore loin du compte ?
Bah écoutez, se rapproche, oui. En tout cas, au niveau des otages, comme vous l'avez signalé, la moitié ont été libérés. Il y a malheureusement encore l'autre moitié qui est encore en train de vivre ce calvaire. Donc c'est en demi-teinte sur ce point-là. Et sur l'éradication du Hamas, nous savions que ça allait être très difficile d'éradiquer ce groupe terroriste qui a, depuis 2005, en réalité, depuis le retrait unilatéral d'Israël de Gaza, il s'est développé de manière exponentielle en prenant évidemment le contrôle de ce territoire. Et c'est très difficile de démanteler une organisation terroriste aussi développé que le Hamas qui se cache dans une population civile. Donc quand on a aussi donc des pressions internationales majeures, oui. Et malgré ça, je pense que le bilan provisoire de 12 000 terroristes éliminés et de ce qu'a fait Tsahal sur le terrain ces 6 derniers mois est un bilan historiquement élevé. C'est-à-dire que quand on compare par exemple à ce qu'ont fait les armées américaines en Irak ou en Syrie, les armées françaises, c'est-à-dire des armées de grande puissance, je ne crois pas qu'en 6 mois, elles sont arrivées à des objectifs comme c'est le cas de Tsahal, et dans une conjoncture aussi difficile que la conjoncture actuelle, où il y a donc d'une part des pressions internationales, d'autre part donc un groupe terroriste qui se cache en plein cœur des civils. On l'a vu encore il y a quelques semaines dans l'hôpital Shifa, au milieu des malades, au sein d'un hôpital. Et en plus, la réalité des otages, que nous savons, Tsahal fait très attention à ne pas mettre en danger la vie des otages. Donc vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de problématiques, un défi auquel Tsahal doit faire face, qui, je crois, encore une fois, aucune autre armée dans le monde n'a dû faire face à un tel défi. Et en tout cas, au bout de 6 mois, il y a quand même des objectifs atteints, mais on n'est pas encore arrivé à l'éradiction du Hamas, évidemment.
Donc vous dites qu'il y a quand même des résultats, malgré le fait qu'on n'ait pas atteint jusqu'à la fin ces objectifs. Alors, toujours concernant les objectifs de guerre, pensez-vous qu'Israël a prioritisé un objectif de guerre aux dépens de l'autre ? C'est-à-dire, est-ce qu'Israël a préféré se concentrer sur l'éradication du Hamas aux dépens de la libération des otages et à l'inverse ? Ou à l'inverse ?
Je ne crois pas, parce que je ne vois pas de contradiction entre les deux objectifs. Contrairement à ce que certains essayent, surtout en dehors d'Israël, moins à l'intérieur du pays, mais surtout en dehors d'Israël, certains essayent de faire croire que l'offensive militaire mettrait en danger les otages ou pourrait fragiliser la perspective d'une libération d'otages. Moi, je pense tout l'inverse. Ça a toujours été mon opinion depuis le début, je pense que c'est l'opinion de la grande majorité des Israéliens, l'offensive militaire, les actions d'otages, ce sont ces actions qui peuvent permettre une libération d'otages ou une libération directe, c'est-à-dire, et comme ça a été le cas dans, pour une partie des otages, c'est-à-dire que les soldats de Tzal libèrent eux-mêmes ces otages, ou une libération indirecte, c'est-à-dire que la pression militaire poussera le Hamas à s'asseoir à la table des négociations et à faire un accord. Ça a été le cas pour l'accord de novembre qui a eu lieu. On a bien vu que lorsqu'Israël a mis la pression, alors il y a eu un accord. Malheureusement, bien malheureusement, je crois que du fait que la tension internationale s'est un peu détournée d'Israël et que les pressions internationales ont changé de bord, plutôt que d'être sur le Hamas, elles sont faites sur Israël. Je crois qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Tzal et ce n'est pas la faute d'Israël, mais la faute en grande partie, en réalité, du Hamas, qui est un petit peu rassuré par l'ONU, par les États-Unis, par les États européens qui passent leur temps à condamner Israël plutôt que de condamner le Hamas.
C'est vrai qu'Israël est confronté à beaucoup, beaucoup de challenges lors de cette guerre. Alors, je souhaitais aussi connaître votre avis sur justement la question des otages. Mettez-vous encore de l'espoir dans cet accord qui ne semble toujours pas aboutir? Et surtout, dans quel état, si on arrive à retrouver les otages, dans quel état ils seront? Alors, je sais que vous n'êtes pas dans les secrets d'État, mais est-ce que vous pensez que la majorité est encore en vie?
Écoutez, vous posez une bonne question par rapport aux otages qui sont en vie ou pas. Il y a un chiffre de... On sait qu'il y en a au grand maximum 95 sur les 134 qui sont en vie. C'est les chiffres qui ont été publiés. On espère que tous les 95 en question le sont. Mais par rapport à votre question d'un accord du Hamas, je crois que malheureusement, vraiment malheureusement, ce qui se passe ces dernières semaines, j'ai envie de dire encore ces derniers jours, au niveau des pressions internationales, de l'administration Biden qui commence à tourner le dos à Israël, ça a été dit d'ailleurs par des opposants à Biden aux États-Unis. Je crois que cela ne fait que renforcer le Hamas dans ses positions, et malheureusement, je ne crois que ça ne fait qu'éloigner une perspective. D'accord. Alors, on a vu qu'Israël s'est retiré, à l'heure actuelle, en tout cas, de l'offensive militaire à Gaza, à proprement parler. Il y a une sorte de trêve quasi unilatérale d'Israël qui va être mise en place, apparemment, dans les jours à venir, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr. Et donc, encore une fois, c'est Israël qui fait des pas, qui tend la main pour libérer les otages. Ouais. J'espère que ça ne va pas être contre-productif et j'espère que ça va aboutir.
Alors, il y a aussi une promesse d'ouverture de front au nord. La guerre continue à Gaza, les otages ne sont toujours pas libérés. Vers où pensez-vous qu'Israël se dirige au bout de ces 6 mois de guerre? Et à combien de temps de guerre estimez-vous qu'Israël... Encore combien de temps pensez-vous que cette guerre durera?
Bah écoutez, le front nord, malheureusement, on a appris dans notre chair ce que coûte le fait d'être en frontière avec une organisation terroriste et le 7 octobre. Donc, ce qui s'est passé le 7 octobre a, je crois, immunisé, entre guillemets, Israël, l'État d'Israël, les dirigeants israéliens et la population israélienne face à une perspective d'une frontière commune avec une organisation terroriste. Cela veut dire qu'il ne pourra pas y avoir de situation où le Hezbollah libanais continue de se retrouver aux frontières, aux portes d'Israël, car nous ne voulons pas avoir un deuxième 7 octobre, puissance 10 cette fois-ci, puisque le Hezbollah, on le sait, est une organisation encore plus grande que le Hamas. Bien sûr. La population des villages israéliens à la frontière nord est encore plus grande que la population de ce qu'était la population des kibboutzim autour de la bande de Gaza. Donc on ne peut pas se permettre un potentiel nouveau 7 octobre, encore une fois, beaucoup plus grand, dans un avenir plus ou moins proche. Donc Israël va devoir, d'une manière ou diplomatique ou militaire, régler le problème de la frontière nord. Régler le problème, ça veut dire que le Hezbollah ne peut pas se trouver à cette frontière, ni même on parle de 40 kilomètres au moins, qu'il soit éloigné de la frontière, et voire mieux encore, ça serait démanteler ses armes. C'est en tout cas ce que fixe une résolution de l'ONU depuis 2006, la résolution 1701, qui n'est pas appliquée et pourtant personne n'en parle, il n'y a aucune condamnation internationale. Dans ce cas-là, quand les résolutions de l'ONU sont pour la sécurité d'Israël et de la région, apparemment, cela n'intéresse personne.
Donc si on est parti pour une nouvelle guerre dans le Nord, ça veut dire qu'Israël n'est pas sorti d'affaire et que là, on en est à 6 mois de guerre avec le Hamas. Donc la guerre n'est pas prête de se terminer.
Je ne sais pas si guerre ou pas, il y a déjà une potentielle guerre qui a déjà lieu de facto dans le nord. Le Hezbollah a envoyé plus de 3000 missiles sur le nord d'Israël. Il y a 100 000 Israéliens qui ont dû quitter leur maison à la frontière nord et qui sont réfugiés dans des hôtels au centre du pays. Donc il y a de facto déjà une situation de guerre dans le nord, alors qui peut se développer en deux options, ou une guerre totale, avec peut-être une incursion militaire de Tsahal, etc., et des bombardements plus massifs, ou une solution diplomatique qui serait que le Hezbollah aille en arrière de manière diplomatique. Israël a dit et répété qu'elle préfère évidemment l'option diplomatique. On la préfère tous, puisque personne n'aime aller à la guerre et personne n'aime mourir à la guerre. Mais si cette option, on n'y arrive pas, il va falloir prendre l'autre option, qui est l'option militaire massive.
Alors justement, en rapport avec l'option militaire, donc déjà toute cette question de guerre, elle a soulevé de nombreuses questions, notamment les moyens militaires d'Israël, qui a provoqué d'ailleurs toute cette polémique autour de l'enrôlement des ultra-orthodoxes. Pensez-vous qu'Israël a les moyens de continuer cette guerre et d'ouvrir et d'en commencer une autre même?
C'est une excellente question. C'est ce qu'on a appelé en Israël la conception, c'est-à-dire que le 7 octobre, il y a beaucoup de paradigmes qui ont volé en éclats. Beaucoup ont parlé évidemment de l'échelon gouvernemental, du Premier ministre et des ministres, etc., ce qui est vrai. Mais si je crois qu'il y a un paradigme encore plus grand qui a explosé en éclats, c'est le paradigme des capacités de Tsahal, qui a toujours été perçu comme une armée invaincue, très forte et imbattable. Et on voit bien qu'il faut le reconnaître, le 7 octobre, Tsahal a été pris en surprise. Et beaucoup de choses ont été remises en cause sur les effectifs de Tsahal, sur ses capacités de réaction. Et je crois qu'il va falloir, réfléchir en profondeur comment réorganiser notre armée, puisque c'est notre armée, nous n'avons pas d'autre choix que de faire avec ce qu'il y a et de la rendre plus efficace. Alors si la rendre plus efficace, c'est peut-être l'agrandir et donc lui enrôler le plus de soldats possible, y compris du public haredi ultra-orthodoxe, et la rendre plus efficace. Je crois que c'est très important puisqu'il en va de notre sécurité et de notre vie à tous.
Yom Tov Kalfon, merci beaucoup pour cette interview. On espère vous retrouver bientôt sur les ondes de Cannes en français. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
Merci à vous aussi et des bonnes nouvelles.
Des bonnes nouvelles, merci, au revoir. Alors pour la suite des informations, les gardes frontières ont neutralisé un grand engin explosif qui se trouvait dans le véhicule du terroriste ayant perpétué l'attentat à la mitraillette de ce matin sur la route 55 en Samarie, au cours de laquelle une femme soldate de 19 ans a été grièvement blessée et un autre homme a été légèrement à modérément blessé. Selon les estimations, les terroristes prévoyaient également de mener une autre attaque. Les forces de sécurité poursuivent toujours le terroriste qui a fui les lieux et ont localisé l'arme qu'il avait utilisée. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a évoqué le départ des forces de manœuvre de Khan Younis lors d'une visite au commandement sud, affirmant que cette décision avait été prise après que le Hamas a cessé de fonctionner comme organisation militaire dans la ville. Gallant a également indiqué que les forces sont parties se préparer pour la mission à Rafiar. Selon le ministre de la Défense, nous parviendrons à une situation dans laquelle le Hamas ne contrôlera plus la bande de Gaza et ne fonctionnera pas comme un cadre militaire représentant un risque pour les citoyens de l'État d'Israël. 5 roquettes ont été lancées depuis la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza vers les implantations du conseil régional d'Eshkol près de la bande de Gaza en Israël, seulement quelques heures après le retrait des forces de Tsahal de la zone. Le système du dôme de fer a été activé et intercepté des roquettes. Les combattants du commando qui ont récemment opéré dans le quartier d'Al-Amal à Khan Younes ont attaqué environ 100 sites, dans chacun desquels une infrastructure terroriste a été trouvée. Au cours des combats, les forces ont localisé un tunnel d'environ 900 mètres de long. À l'intérieur de ce tunnel ont été trouvées des pièces d'habitation et de nombreuses armes. Après une enquête menée par l'unité Yalam, les combattants ont fait sauter le tracé du tunnel. Un terroriste a été éliminé lors de l'opération. Le chef d'état-major, le général Herzi Halevi, a fait une déclaration 6 mois après le 7 octobre, donc aujourd'hui, et a déclaré que malgré le retrait de la 98e division de Khan Younis, la guerre à Gaza continue et nous sommes loin de nous arrêter. Halevi a déclaré « L'un des objectifs de la guerre, le retour des otages, est urgent et important ». En outre, le chef d'état-major a envoyé un message à l'échelon politique affirmant que l'armée est suffisamment forte pour que l'État d'Israël paie le prix fort pour la libération de ses citoyens. Des milliers de personnes manifestent devant la Knesset à Jérusalem pour justement le retour des otages. Les manifestants scandent à la réalisation d'un accord dans l'immédiat. Au même moment, des proches des femmes enlevées se tiennent sur le podium avec des vêtements identiques à ceux qu'elles portaient lors de leur enlèvement cette journée du 7 octobre. Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la bande de Gaza et la Judée-Samarie, Jamie McGoldrick, a détaillé hier dans un communiqué officiel les secours humanitaires approuvés par le cabinet politico-sécuritaire dans la bande de Gaza. Selon McGoldrick, le cabinet a approuvé l'extension des heures de fonctionnement des passages de Kerem Shalom et de Nitzana, ainsi que l'augmentation du nombre de camions entrant par le passage du pont Allenby de 25 à au moins 50 par jour. L'exploitation de 20 boulangeries dans le nord de la bande de Gaza a également été approuvée. C'est une évolution dont il faut se féliciter, en particulier pour un certain nombre d'engagements qu'Israël a pris en réponse à nos demandes répétées. C'est ce qu'a déclaré Moldrick. Le chef de l'autorité des eaux de la bande de Gaza, Mazen Ghanim, a annoncé que des équipes techniques ont commencé les travaux pour réparer l'une des principales sources d'apprivoisonnement en eau des habitants de la ville. Selon Ghanim, les travaux de réparation des dégâts devraient durer plusieurs jours. Selon les informations palestiniennes, le terroriste arabo-israélien Walid Dakka est décédé à l'hôpital Assaf à Rafah. En juin de l'année dernière, la commission spéciale de libération conditionnelle a définitivement rejeté la demande de libération anticipée de Dakka, l'un des assassins du soldat Moshe Tam en 1984 en raison de son état de santé. Ceci après que Dakka, atteint d'un cancer, a soumis une demande affirmant qu'il était dans un état terminal et qu'il souhaitait mourir près des membres de sa famille en dehors de la prison. Au nord, le porte-parole de Tsahal a annoncé que des avions de combat ont attaqué un complexe militaire contenant 7 bâtiments militaires de la force Radwan du Hezbollah dans la région d'Al-Khiyam. Il a également été rapporté que les forces de Tsahal ont attaqué un quartier général militaire associé à l'organisation dans la région de Kfar Tora et ont également attaqué les sources des tirs dans les régions de Kojba et Misal Jabal au sud du Liban en réponse aux tirs détectés plus tôt dans la journée vers les hauteurs du Golan et de la région de Manas. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a affirmé que le soutien de la Grande-Bretagne à Israël n'était ni absolu ni inconditionnel et qu'il dépendait de l'action d'Israël conformément au droit humanitaire international. Cameron, qui a écrit ces mots dans un article du journal The Sunday Times, a déclaré que la Grande-Bretagne s'attend à ce qu'une démocratie prospère comme Israël agisse conformément à la loi, même lorsqu'elle est contestée. Il est à noter que 46% des musulmans en Grande-Bretagne affirment supporter le Hamas. Alors pour le deuxième invité de notre invité pour le deuxième invité de notre soirée, nous recevons Stéphane Jufa, analyste stratégique, habitant de la ville la plus au nord d'Israël, à Metoula. Monsieur Stéphane Jufa, merci d'être avec nous ce soir.
Shirley, c'est un plaisir. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs de Canal en français.
Alors, en premier lieu, Stéphane, cela fait 2 mois et demi, il me semble que vous avez été évacué de chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation actuelle et avec cette promesse aussi d'ouverture d'une éventuelle guerre sur le front nord, quel est le sort à venir des habitants du nord d'après vous ?
Le problème, justement, qu'on n'en sait rien du tout. Et moi, je n'ai pas été évacué, j'ai été contraint de m'évacuer moi-même, puisque le Hezbollah a tiré 2 missiles anti-char sur nos bâtiments et qu'il n'en reste pas grand-chose et qu'il n'y avait plus de murs même pour nous abriter. Donc j'ai dû partir. dans un village qui est de plus en plus souvent bombardé. C'est même presque impossible actuellement d'aller, en tout cas dans le quartier où nous sommes établis. Et je me trouve à Tibériade depuis effectivement 2 mois et demi comme réfugié. C'est une vie très dure, Shirley. L'homme n'est pas fait, l'homme et la femme ne sont pas faits pour passer leur vie dans un hôtel. Quelques jours, 6 jours de vacances, ça va. Une semaine, ça va. Mais sinon, 25 mètres carrés, ce n'est pas suffisant. Et puis, c'est entouré de cet inconnu. On ne sait pas du tout. Vous avez parlé très justement parce que vous l'avez entendu. De cette perspective de pouvoir retourner chez nous. Mais pour le moment, hier, des missiles ont été tirés sur Metula. Il y a 4 jours, des missiles sur Metula. On a aucune perspective. Moi, j'ai la chance de pouvoir continuer à diriger notre agence de presse de la MENA et d'avoir beaucoup de travail. Et je suis au milieu de 250 déplacés intérieurs de Metula. Et leur vie est un véritable calvaire. Il y a un taux de malades absolument extraordinaire, de malades physiques, bien entendu, de malades au niveau psychologique. Et on les voit dépérir de jour en jour. Je les rencontre au petit déjeuner. Et tout ce qu'ils sont capables de dire maintenant, c'est bonjour, bon appétit. Et de jour en jour, leur situation se détériore.
Alors, ce que vous décrivez est absolument dramatique. Je reviens juste sur ce que vous avez dit au début. Votre maison a été détruite. J'imagine que la plupart des maisons, d'ailleurs, ont été détruites, c'est ça?
Non, alors la plupart des maisons ne sont pas détruites. Il y a plusieurs dizaines de maisons qui ont été touchées. La nôtre a été touchée en plein fouet. Je dirais qu'il y a une vingtaine de maisons qui ont été attaquées de cette manière. La chance qu'on a quelque part, c'est que nos maisons, on a 2 maisons, donc une qui abrite l'agence de presse, et l'autre qui abrite les chambres des journalistes et mon appartement. Et je pense que qu'il est reconstructible. Ça va prendre des mois de paix. On peut même pas commencer à imaginer la reconstruction. Les gens qui sont chargés d'évaluer les dégâts n'ont pas réussi à trouver un moment de calme pour aller voir l'état des maisons. Mais toutes les maisons, la majorité des maisons ne sont pas détruites. En revanche, je vous assure que il faudra vraiment travailler dur pour rendre un aspect accueillant à un des plus beaux villages d'Israël, qui est notre petit village de Metula.
J'imagine. Alors, je rappelle justement que vous êtes analyste stratégique. Alors, que pensez-vous justement de cette guerre qui semble nous pendre au nez contre le Hezbollah?
Bah, je ne sais pas. Moi, j'ai vu ce matin que tous les derniers soldats qui se battaient dans le sud à Gaza sont partis de l'enclave palestinienne. Donc, ce soir, on ne se bat plus à Gaza. Au nord, on ne se bat pas. Donc, par rapport aux activités, aux opérations en cours de notre part, de la part de Tsahal, ça peut durer encore 5 ans de la même manière. On ne retournerait pas à Metula. Je veux dire par là, en tant qu'analyste stratégique, qu'il n'y a, du point de vue stratégique, aucune opération militaire conduite actuellement par Tsahal qui soit à même, si elle réussissait, à rétablir la sécurité des habitants de tout le nord, de toute la frontière entre Israël et le Liban. Rien qui est entrepris jusqu'à maintenant ne permettra aux habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux. Et nous sommes à peu près 100 000 dans cette situation. Nous disons que si on nous a demandé d'évacuer et de quitter notre maison et d'habiter dans des hôtels, les gens qui m'entourent sont là depuis 6 mois, depuis le tout début. Eh bien, c'est pour permettre à l'armée de restituer, de restaurer les conditions de sécurité pour qu'on puisse retourner chez nous. Eh bien, pas du tout. On est parti Et depuis 6 mois, le gouvernement actuel, son premier ministre, Benjamin Netanyahou, n'ont pas donné les consignes, les ordres à l'armée d'agir afin de restituer cette sécurité. Et on peut dire exactement la même chose, Shirley, par rapport au sud, par rapport à la bande de Gaza. La population israélienne a de la mémoire. On a entendu très clairement M. Netanyahou dire que la finalité de l'engagement de Tsahal, la raison pour laquelle 500 soldats ont payé de leur vie jusqu'à maintenant, c'est deux choses. La première, d'éliminer ou d'appréhender Ismaël Sinwar et Mohamed Def, les deux dirigeants de Hamas. Et la deuxième, de libérer les 132 otages, dont la plupart pourraient encore être en vie, ce dont certains d'entre nous doutent malheureusement. Eh bien, force est de constater, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et encore moins des paroles apaisantes et des promesses de M. Netanyahou, Sinwar et Def sont toujours en liberté, et en 6 mois, l'armée est parvenue à libérer un seul otage. Et en dépit de cela, Shirley, on a évacué tous nos soldats de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'aucun des buts annoncé par M. Netanyahou n'a été réalisé. Et en dépit de cela, ce soir, aujourd'hui, on a arrêté de se battre. Alors, il y a des promesses qui disent qu'on va recommencer à se battre. Tous les jours, depuis 6 mois, on nous promet de donner les ordres à Tsahal, qui est prêt à les exécuter, de changer la situation, changer les paramètres de sécurité au nord. Et force est de constater, comme je l'ai dit, ni au sud, ni au nord, ce gouvernement et le Premier ministre n'ont donné les instructions nécessaires pour que cette situation change. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un jour noir dans l'histoire d'Israël, car nous avons cessé de nous battre alors que nos otages sont toujours au prix. Et puis, je dirais encore une autre chose, Shirley. On a des émissaires au Caire qui sont en train de négocier avec le Hamas la libération des otages. Mais depuis que nos soldats sont partis, sont sortis de Gaza, il n'y a plus aucune pression qui s'exerce sur la direction du Hamas. Au contraire, le Hamas a compris que ce gouvernement, Israël ne parviendrait pas à ses fins militaires, ne parviendrait pas à réaliser les buts qu'elle s'est elle-même fixés. Alors, effectivement, le Hamas n'a aucun intérêt, aucune pression s'exerçant sur lui, aucun intérêt de continuer dans ces négociations et d'échanger nos otages contre quelque chose qui resterait à définir.
Alors on va revenir sur le retrait sud dans quelques instants. Alors c'est intéressant parce que vous contrastez justement avec le précédent invité qui a quand même affirmé qu'Israël avait accompli de grandes choses depuis le début de la guerre. Alors les objectifs ne sont pas atteints jusqu'au bout, mais il est vrai que par exemple 12 000 terroristes ont été neutralisés. Israël a réussi à libérer en novembre la moitié des otages et après deux autres otages. Alors oui, les avis diffèrent. C'est vrai que vous aussi, en tant qu'évacué, vous devez vivre la guerre de façon extrêmement différente parce que ça reste extrêmement difficile pour vous. Alors je reviens juste sur une chose quand vous dites qu'Israël a arrêté de se battre et qu'elle ne fait rien au nord et au sud. Je reviens au nord. Alors est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'Israël ne fait rien? Il y a quand même une guerre aérienne. Alors, on n'est pas rentré au Liban par la terre, par une incursion terrestre. Mais est-ce que de là à affirmer qu'Israël ne fait rien, est-ce que vous pouvez un peu développer?
Tout à fait. Israël riposte, Israël réplique. Le Hezbollah tire sur Kiryat Shmona. Tout le nord d'Israël a été évacué, on est 100 000 évacués. Et Israël, chaque fois que le Hezbollah tire sur une de nos localités, Israël, avec son artillerie, avec son aviation, avec ses drones, tire sur les sources, sur les endroits d'où les tirs du Hezbollah sont partis, et frappe également des sites stratégiques du Hezbollah au Liban. Mais sans opération terrestre et sans opération, et là on parle de stratégie qui soit de nature à modifier, à écraser le Hezbollah, à l'empêcher de nuire, à obliger le Liban à respecter la résolution 1701 qui prévoit de désarmer le Hezbollah et d'instaurer des relations pacifiques entre le Liban et Israël. Sans cette décision et cette action stratégique, parce qu'il faut séparer ce qui est stratégique, ce qui est de nature à changer l'état des choses, et ce qui est tactique et qui se limite à riposter. Riposter ne va pas modifier les conditions de coexistence entre le Liban et Israël, ne va pas nous permettre de réinstaurer cette situation de sécurité. Maintenant, pour le Sud, les choses au plan stratégique dépendent des buts qu'un pays lui-même s'est fixé. Si M. Netanyahou avait annoncé que nous allions détruire la plupart des miliciens du Hamas et du djihad islamique, de même que leurs infrastructures à Hamas, eh bien, on pourrait ce soir jubiler, comme le fait de manière un peu infantile M. Netanyahou, en disant « nous avons en fait gagné cette guerre ». Mais ce n'est pas les buts que nous nous sommes fixés. Et je dirais que le fait d'avoir éliminé ces miliciens islamistes, djihadistes, eh bien, c'est une chose qui est tout à fait excellente. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus au premier plan, c'est de libérer nos otages. Et chérie, je suis absolument obligé de vous contredire. C'est pas Israël qui a libéré les otages qui ont été libérés jusqu'à maintenant.
Je parlais des deux derniers.
C'est un échange de prisonniers.
En novembre, oui, mais
c'est pas du tout la même chose. On a lancé notre armée pour que notre armée libère ses otages. Mais en fait, on a déjà payé très cher la libération de la moitié de ses otages environ. Donc, aucun des objectifs qui ont été fixés par le Premier ministre, qu'il a lui-même décidé de fixer, aucun n'a été atteint. Et ce soir, Israël a arrêté le combat et donc a arrêté toutes les pressions que nous exercions sur le Hamas pour l'amener justement à libérer ses otages. Alors on nous parle de recommencer à combattre, de prendre Rafah, pourquoi pas? Mais si c'était notre intention, je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté. De plus, on se rappelle aussi de ce que ce gouvernement et M. Netanyahou ont dit, c'est qu'ils n'avaient aucune intention d'arrêter le combat, d'accepter un cessez-le-feu. Eh bien, ce soir, on a accepté toutes les conditions de nos ennemis, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus à Gaza. C'était exactement ce que le Hamas désirait. On leur a servi sur un plateau ce qu'ils nous demandaient, et même sans rien recevoir en retour.
Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un cessez-le-feu? Il me semble que ça reste quand même temporaire. Justement, on va revenir, revenir plus en détail sur ce retrait de Tsahal à Khan Younes. Donc, de ce que je comprends, vous pensez que ce n'était pas la bonne décision. Alors déjà, pourquoi Tsahal a décidé, ou le gouvernement a décidé de se retirer de Khan Younes? Et quelles sont les conséquences justement d'une telle décision?
Alors, à mon avis, depuis le début de cette crise, et puis depuis un peu avant également, au point de vue politique, avec cette tentative de coup d'État institutionnel, les décisions de M. Netanyahou n'ont ni queue ni tête. Il dit une chose, il dit on va éradiquer le Hamas, on va mettre Sinwar et Belfort d'état de nuire, et on va libérer les otages, et il n'en fait rien, il se réjouit d'une victoire. Ça n'a aucun sens. Et en tant qu'analyste stratégique, on est habitué à une certaine discipline logique. Cette discipline logique n'existe pas dans cette suite de décisions. Pourquoi? En fait, normalement, on aurait dû actuellement augmenter la pression militaire. C'est aussi M. Netanyahou qui qui parlait et qui a fait en sorte qu'Israël se dispute avec son principal allié et pourvoyeur d'armes et de fonds, les États-Unis, pour dire aux États-Unis, nous allons prendre à ça. Nous ne pouvons pas cesser cette guerre sans prendre à ça.
Mais c'est ce qui est prévu.
Il a réaffirmé ce soir. Alors pourquoi on est en train de prendre à ça? C'est moi qui vous pose la question, Shirley. Qu'est-ce qui nous empêche?
J'imagine que c'est en préparation. Je ne connais pas les stratégies militaires de Tsahal. C'est vrai que j'ai été aussi surprise par le retrait des forces de Tsahal à Khan Younes.
C'est pas qu'à Khan Younes, c'est dans toute la bande de Gaza.
Oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai.
C'est dans toute la bande de Gaza et au niveau de Rafah, ben on a eu largement 6 mois le temps de se préparer, je pense. Et ce qui peut être intéressant au niveau de l'analyse stratégique, en fait, on s'est simplement trompé de sens de progression. C'est-à-dire qu'on a commencé la guerre au nord de Gaza et on est descendu en direction de Rafah, en direction de l'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de Gazaouis civils et encore 4 unités du Hamas qui sont adossées à la frontière égyptienne, ce qui nous rend la vie très difficile, ce qui irrite considérablement les Égyptiens, les Américains et nos autres amis stratégiques en Europe et ailleurs. En fait, ce que nous aurions dû faire, et tous les analystes stratégiques partagent la même opinion, c'est commencer la progression, c'est-à-dire commencer depuis Rafah, en montant du sud au nord et en encerclant les miliciens le long de la frontière israélienne, un peu dans la zone d'Erez, au sud d'Ashkelon. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et je pense à ce titre que, bien entendu, les principaux responsables, je dirais même coupables, soyons clairs, n'ayons pas peur d'utiliser les mots justes, sont le gouvernement de Netanyahou, ses alliés, ses ministres, qui ont passé leur temps à attaquer les responsables de l'armée, à attaquer les pilotes, et même à licencier le ministre de la Défense avant de le reprendre. Mais l'armée israélienne, notamment ses stratèges, ont également commis des erreurs. La différence entre Netanyahou et l'état-major de Tsahal, c'est que l'état-major de Tsahal est prêt à reconnaître les erreurs qu'il a commises.
Alors, monsieur Stéphane Dufat, merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était une interview des plus intéressantes. Je vous souhaite bon courage à Tibériade, en espérant que vous revenez bientôt, que vous reviendrez bientôt chez vous et qu'on entende des bonnes nouvelles. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
C'est très gentil, Shirley. Je vous remercie. Pour moi et pour beaucoup d'Israéliens, je pense pour la totalité, même, c'est une journée extrêmement triste qui est ponctuée par une décision incompréhensible et surtout par le doute. Et l'incertitude, on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je pense qu'on peut garder confiance dans notre capacité, dans la capacité de résilience de ce peuple tout à fait exceptionnel. Et je me sens au plaisir de venir vous retrouver sur cette antenne très prochainement.
Merci beaucoup Stéphane Dufat, au revoir. Pour la météo, demain les températures seront légèrement inférieures aux normales saisonnières. Dans la matinée, des pluies locales sont attendues sur le nord et sur la plaine côtière. Plus tard dans la journée, la pluie se propagera au centre. Il existe une légère crainte d'inondation dans les cours d'eau de l'Est. Les températures prévues pour la nuit et demain à Jérusalem de 9 degrés à 20 degrés, à Tel Aviv de 14 à 20 degrés, à Haïfa de 15 à 20 degrés, à Tzfat de 11 à 16 degrés, à Beit Shan de 16 à 26 degrés, Be'er Sheva 13 à 26 degrés, à Eilat de 17 degrés la nuit et 28 demain. Merci de nous avoir suivis pour ce journal qui arrive à sa fin. On vous retrouve dès demain. Merci à Eilat Zohar en technique. C'était Shirley Journaud. Shalom de Jérusalem.